Ah, écoutez, en principe, nous devons donc commencer ce matin l'étude du texte de Pirkei Avot par l'étude de la première Mishnah, dont je vais vous définir brièvement le sujet. Et puis, je pense que ce sera beaucoup plus fécond si c'est une étude, c'est-à-dire que j'ai à répondre à vos questions précises, en se basant d'ailleurs sur les deux exposés que nous avons déjà lus jusqu'à présent, et poursuivre la même ligne directrice. Vous arrivez à m'entendre sans micro quand même?
Oui.
Top. Alors, par quoi commencer? Eh bien, je crois qu'il vaut mieux commencer par lire la Mishnah et puis énumérer un certain nombre de questions d'exégèse qui apparaissent. Et puis nous aurons ensuite deux ou trois introductions générales et on étudiera plus profondément un des thèmes que pose cette Mishnah. Je vous rappelle en tout cas, avant de lire la Mishnah elle-même, que le premier sujet d'étonnement, si on peut dire, c'est de trouver le rappel de la chaîne de la transmission de la Torah à partir de Moïse jusqu'au temps de Anshei Knesset HaGedola, c'est-à-dire le temps, je vais définir ce que c'est que cette assemblée de Anshei Knesset HaGedola, le temps du retour du premier exil de Babylone. Donc, entre Moïse et ce temps de Anshei Knesset HaGedola, où va commencer le temps du Talmud, se passe toute une série d'époques, d'abord la période des juges, ensuite la période des rois, ensuite, par conséquent, le temps du premier royaume d'Israël, au temps du roi David, puis le schisme, après le roi Salomon, la division en deux royaumes, le royaume d'Israël du nord, le royaume de Juda du sud, puis l'exil successif des deux royaumes, l'exil de Babel. Tout ceci nous mène à peu près à 2400 ans avant l'époque actuelle. Non, pardon, à 400 ans à peu près, avant le commencement du christianisme. Si vous voulez, donc 2400 ans de notre temps. Et la première Mishnah va rappeler les différentes étapes de la transmission de la Torah à partir du Sinaï, au temps de Moïse, au temps de la sortie d'Égypte. Première question, comment se fait-il que ce livre, qui est le livre de l'enseignement de la morale, les Pirkei Avot, qui par conséquent a pour objectif de transmettre dans l'enseignement en Israël les lignes de force de l'identité des patriarches, comment se fait-il que dans ce livre qui a pour objectif l'identité d'Israël à partir des Avot, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il se nommera le Pirkei Avot, bien que ce terme de Avot désignera dans ce livre les Anshei Knesset HaGedola et non pas les patriarches eux-mêmes, s'il y a des termes pas clairs, arrêtez-moi, eh bien, comment se fait-il donc que ce livre commence par une Mishnah qui rappelle la transmission de la Torah à partir de Moïse? Vous vous souvenez du plan, du premier plan que nous avons eu jeudi soir? Il y a, et que j'ai rappelé aussi hier, il y a deux définitions d'identité, ou plus exactement deux polarités d'identité, pour Israël, à travers les patriarches, d'une part, à travers Moïse, d'autre part. À travers les patriarches, c'est-à-dire les lignées de l'engendrement, la constitution d'une identité anthropologique, c'est-à-dire la constitution d'une manière d'être homme, et cette manière d'être homme se définit à l'échelle collective, mais elle a malgré tout un fond de définition que nous trouvons dans l'enseignement de ce qu'en hébreu on appelle la morale. C'est-à-dire la morale, on la reçoit des pères. Et la Torah, on la reçoit des maîtres. Et d'où notre problème. Comment se fait-il que les Pirkei Avot commencent, paradoxalement, par le rappel de la Mishnah, de la transmission de la Torah à partir de Moïse, donc la préface au Avot, c'est Moshe Rabbeinu. Vous voyez à peu près le problème. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? L'objectif de la morale, eh bien, c'est ce que nous appelons d'une façon générale les valeurs du bien, les valeurs morales. Et cela s'appelle en hébreu Derech Eretz. Derech Eretz, on traduit par politesse, par civilisation, par morale. Moussar, le terme de moussar, c'est plus la morale pratique, la pédagogie morale, l'éducation morale, c'est moussar. Mais le terme de morale, la désignation de l'objectif des valeurs du bien, se dit en hébreu Derech Eretz. Derech Eretz, ça veut dire le chemin de la terre, littéralement. Derech Eretz, le chemin de la terre. C'est-à-dire les valeurs qu'il faut réaliser pour la vie sur terre. C'est cela, le Derech Eretz. Est-ce que c'est bien clair? C'est-à-dire tout se passe comme si ce que nous appelons le Moussar ou le Derech Eretz concerne ce monde-ci. L'objectif de la Torah. Et je dis souvent, nous disons souvent que l'objectif de la Torah, c'est d'enseigner les valeurs morales vraies, les vraies valeurs morales. Enfin, l'objectif de la Torah est quand même assez au-delà. C'est la Kedusha, c'est-à-dire la sainteté. La Kedusha qui se vit sur terre, mais en vue de Olam Haba, en vue du monde à venir. Et c'est la raison pour laquelle nous avons une Mishnah, qui est l'introduction générale au Pirkei Avot, Kol Israël, Yeshlaem, Chelek, la Olam Haba. C'est-à-dire, on va apprendre immédiatement que ce sont les hommes qui sont capables d'enseigner les lois de la Kedusha, de la sainteté, de qui il faut aussi recevoir les lois de la morale, ou les principes de la morale. Enfin, c'est un principe général préalable qui nous fera comprendre pourquoi nous trouvons cette Mishnah comme introduction. Enfin, comme d'habitude, c'est plus tard dans les analyses de détail que tout ceci s'éclairera plus. En tout cas, première équation, si vous voulez, c'est que l'objectif de la Torah, c'est la Kedusha. La consigne de la Torah, c'est Kedoshim Tihyu. Mais cette Kedusha ne peut être réalisée que par les hommes qui ont déjà réalisé le Derech Eretz, c'est-à-dire la morale. Inversement, on apprendra les consignes pour la moralité des hommes qui sont capables de la Kedusha. Voilà donc le premier point. Alors, pour ceux qui connaissent déjà les textes, ça nous renvoie à ce principe talmudique Kadma Derech Eretz la Torah Alpaim Shana, c'est-à-dire d'une part le principe que le Derech Eretz vient dans l'ordre chronologique avant la Torah. Il faut d'abord être capable du Derech Eretz pour que la Torah réussisse. La Torah n'est pas donnée à n'importe qui. La Torah est donnée à une identité qui est le résultat de tout un cheminement historique dans l'histoire du monde depuis le premier homme jusqu'à Abraham, qui est le temps du Derech Eretz. Depuis Adam jusqu'à Abraham, c'est le temps pour arriver à réussir en germe la naissance des valeurs morales dans la conscience de l'humanité. Alors va commencer après seulement le temps de la Torah. Donc premier principe, il y a un ordre chronologique et logique d'abord. D'abord la formation morale en général, et après seulement on peut recevoir la Torah. Mais deuxième principe, cette phrase que je viens de vous citer nous dit qu'il fallait 2000 ans de temps de Derech Eretz avant que ne puisse commencer le temps de la Torah. Et là, l'étonnement que nous avons, c'est que on nous apprend que le moussard qui se reçoit des avot ne peut être reçu vraiment, pas de n'importe quel avot, mais de ceux qui sont capables d'avoir reçu d'autre part la Torah. Voilà donc les deux principes corollaires. Eh bien, là, je crois que nous pouvons aborder maintenant directement la lecture du texte. Moshe kivel Torah mi-Sinaï. Voici comment commence le texte. Moshe, Moïse, kivel Torah, a reçu Torah, mi-Sinaï, du Sinaï. Déjà, si vous voulez, presque en vrac, un certain nombre de questions d'exégèse sur la forme. Pourquoi dit-on Moshe, tout simplement, et pas Moshe Rabbeinu, comme nous avons l'habitude de dire. C'est-à-dire, le texte dit Moïse, et non pas Moïse, notre maître. Dans tous les textes du Talmud ou du Midrash, on ne dit jamais Moshe tout seul, mais Moshe Rabbeinu. C'est une première question. Kibel Torah a reçu, Kibel Torah a reçu de la Torah, et alors qu'il faudrait qu'il y ait Kibel HaTorah, la Torah, avec l'article. Ça fait déjà deux questions qui nous occuperaient longtemps. Mi-Sinaï, du Sinaï. Et on ne dit pas de qui il a reçu la Torah du Sinaï. Il faudrait dire au Sinaï, des Sinaï, mais il y a écrit Mi-Sinaï, du Sinaï, comme si c'était le Sinaï qui avait donné la Torah à Moïse. Alors bien entendu, les commentaires précisent immédiatement par rapport à ces différentes questions, et en particulier pour la dernière, que Moïse a reçu la Torah de celui qui s'est révélé à lui au Sinaï. Mais il y a là une indication importante que c'est à partir du Sinaï, à partir du Mahamal Ar-Sinaï, à partir de l'événement de la révélation au Sinaï, que Moïse est dit habilité à donner la Torah. Kibel Torah a reçu Torah sans l'article. C'est cette idée de Kabbalah, c'est-à-dire d'habilitation à donner la Torah. N'est habilité à donner la Torah que celui qui l'a reçue. Alors, une petite parenthèse qui est importante ici, c'est la définition talmudique d'un maître, c'est pas quelqu'un qui a des élèves, c'est quelqu'un qui a eu un maître. C'est très différent de la pédagogie universitaire, à l'université, si vous voulez, un professeur, c'est quelqu'un qui a des élèves. Mais pour la tradition, un maître, c'est quelqu'un qui a eu un maître. Et on peut dire aussi que c'est la raison pour laquelle le texte ne porte pas Moshe Rabbeinu, Moïse notre maître, parce que dans l'instant où on le désigne ici, il n'était pas maître mais élève. Vous comprenez? Là, à ce moment-là, au Sinaï, lorsqu'il était Mekabel Torah, recevant la Torah, il était élève. Enfin, je vous indique tout cela pour indiquer un problème important, c'est que le texte veut nous faire comprendre immédiatement que la Torah que Moïse transmet, eh bien, c'est une Torah qu'il a reçue. Voilà, ce terme de Kibel est très important. C'est une Torah qu'il a reçue. À partir du Sinaï, ils nous demanderont de qui l'a-t-il reçue. Alors, cela renvoie, bien entendu, à la définition de Dieu comme révélant la sagesse, comme révélant la loi. Mais il y a un premier point, un préalable très important, ne pas risquer de tomber dans le piège de croire que cette Torah qui est entre les mains d'Israël, c'est la production de la capacité d'intelligence des sages d'Israël. Il y a là, comme vous savez, le cas particulier d'Israël, qui est la seule tradition qui affirme que la sagesse qu'il possède lui a été transmise de quelque chose d'autre, d'un monde autre. Il lui a été transmis, si vous voulez, à la fois d'un monde antérieur, mais en tout cas d'un monde autre que celui de l'intelligence humaine prise dans ses propres limites. Il y a des sagesses partout, mais la seule tradition, si vous voulez, qui se définit comme étant le résultat d'une révélation, escalité, c'est la tradition d'Israël. On pourrait dire en termes théologiques, et on a l'habitude de dire en histoire des religions, que la seule religion positive, la seule religion révélée, c'est la religion d'Israël, et puis les dérivés qu'il y a eu d'un côté l'islam ou de l'autre côté la chrétienté, qui se réfèrent eux aussi à la révélation donnée à Israël et en Israël ou par Israël, avec des nuances du point de vue de l'islam ou de la chrétienté. Mais on a fait des recherches très précises à l'origine de toutes les autres traditions dans le monde. Je crois que c'est important de rappeler tout cela. Il y a un sage qui est à l'origine de la sagesse ou de la tradition considérée, mais qui ne dit jamais que c'est le créateur du monde, Dieu, qui a révélé ou l'a chargé de transmettre ce qu'il y a à transmettre. Or, notre problème à nous, c'est que nous savons, d'après tout l'enseignement de la Torah, la Torah ne se cache pas de dire, et Dieu a parlé à Moïse en disant, « Vaidaber Hashem el Moshe lemor », ici il n'y a pas d'allusion à ce fait. « Moshe kivel Torah misinaï ». Vous voyez quel est le problème. Alors il y a donc un piège à éviter, c'est de croire que la Mishnah voudrait indiquer que la Torah est reçue par Moïse au Sinaï, non pas à la manière de la révélation telle qu'on l'entend habituellement, que quelqu'un donne la Torah à Moïse au Sinaï. C'est donc cette fausse lecture qu'il faut éviter. Alors, ça fait un premier problème, sur lequel Maharal va nous donner un enseignement précis, ça fait un premier problème, pourquoi la Mishnah n'a pas indiqué que Moïse a reçu la Torah de Dieu, mais la Mishnah indique que Moïse a reçu la Torah du Sinaï à cause de cette éventualité d'erreur. Enfin, il y a un problème. C'est la raison pour laquelle le Maharal doit nous expliquer pourquoi, malgré ce risque d'erreur possible, le texte a tenu à dire « Moshe Kibel Torah mi Sinaï » et non pas, par exemple, « Moshe Kibel Torah mi Akadosh Baruch ». Vous voyez comment est le premier problème. Ensuite, « Umsara Yoshua » et il l'a transmise à Josué. « Yoshua l'Iskenim » et Josué aux anciens. Les anciens, c'était les juges du premier temps de l'histoire d'Israël, après la sortie d'Égypte, après le temps du désert. Uskenim ilvim, et l'Eskenim, les anciens aux prophètes, unvim et saruha, les anshek neset agadola. Et les prophètes l'ont transmise aux anshek neset agadola. Anshek neset agadola, ce sont les personnalités qui ont pris la tête du premier retour de l'exil, après l'exil de Babylone, et qui ont fondé le deuxième état de Judée. Il y a donc 2400 ans, comme je vous le disais tout à l'heure. Et ils sont appelés Anshe Knesset Agedola. Ils sont appelés par l'institution qu'ils ont fondée, qui s'appelle la Grande Assemblée, littéralement, Knesset. Knesset, c'est ce que l'on traduit par église, Knessia, si vous voulez, ou par synagogue, mais dans le sens de Sanhedrin, dans le sens de rassemblement. Et d'ailleurs, c'est parce qu'à l'époque, cette Knesset Agedola avait 120 membres, que par analogie, la Knesset de l'État d'Israël contemporain a décidé qu'il y aurait 120 députés. Enfin, il y a là une sorte d'analogie formelle, mais peut-être qu'elle n'est pas si formelle que cela. On retrouve dans la Knesset actuelle pratiquement autant de tendances, autant de nuances qu'il y avait dans les différentes sectes qui ont foisonné à partir d'un certain stade de l'art au temps de la Judée. Je me souviens d'ailleurs que dans les premières élections de l'État d'Israël, on a remarqué qu'il y avait 22 partis qui se présentaient aux élections, exactement comme les lettres de l'alphabet, le nombre de lettres de l'alphabet, d'où la tradition encore actuelle que chaque parti se présente sous le titre d'une lettre. Je me souviens aussi une fois, peu importe, c'est des anecdotes. Non, c'est rien du tout. Voilà donc qui sont Anshekhin et Setagadola. Alors là, nous allons d'abord analyser la structure de cette transmission, mais toujours à partir de ce principe que nous avons mis en évidence tout à l'heure. Pourquoi est-il important de savoir que ceux qui vont enseigner le moussard, les avot, ceux qui vont enseigner la manière d'être des avot, sont d'abord habilités par le fait qu'ils sont ceux qui ont reçu la Torah. Vous avez bien compris mon problème. C'est qu'il y a là apparemment opposition. Apparemment, ça n'a rien à voir. D'un côté, il s'agit des principes d'identité qui font qu'Israël est le peuple issu des patriarches et de la difficile sélection qui a fait toute notre histoire depuis Abraham. Et d'autre part, ça c'est Moussar, ça c'est Avot, Shemar, Beni, Moussar, Abicha. Le Moussar vient du père. Mais d'autre part, on nous dit que pour habiliter ces Hachamim qui vont donner le Moussar, il faut les rattacher à la chaîne de transmission de la Torah, c'est-à-dire ce qui nous vient à travers Moïse. Ce qui vient à travers Moïse, c'est les lois pour la Kedusha, c'est les lois pour Olam Haba. Ce qui nous vient à travers les patriarches, c'est les lois pour le Moussar, c'est les lois pour Olam Hazé. Alors comment se fait-il qu'il faut baser l'un sur l'autre? Voilà notre problème. Et nous voyons qu'il y a différentes étapes de la transmission de la Torah pour nous mener au Moussar qui va être enseigné par Anshei Knesset Hagdola. Un verset de proverbe du roi Salomon que la plupart des commentateurs citent pour expliquer pourquoi l'enseignement de la morale est mis au nom de l'identité père, Avot. C'est Shema Beni Moussar Abicha Ve'altitosh Torah Timecha. Ça veut dire écoute, littéralement écoute. Avec tout le sens du mot Shema en hébreu, c'est pas seulement écoute, mais comprends, prends garde, fais attention, rends-toi compte de. Donc, Shmar, béni, écoute, mon fils, Moussar Abicha, le Moussar de ton père, Ve'altitosh, et ne dédaigne pas la Torah de ta mère. Alors, premier étonnement, qu'on signale avec juste raison, on pourrait croire que c'est la mère qui enseigne la morale et que c'est le père qui enseigne la Torah. Il s'agit en tout cas des premiers âges de l'enfant. Mais je crois que le verset est assez important pour lui-même du point de vue de l'identification historique. Vous me permettrez une petite parenthèse. Parce qu'on a appliqué ce verset aux différends entre Jacob et Ésaü. Je voudrais essayer de développer ce thème d'après le midrash suivant. Shemar beni Moussar Abicha, en Abicha ela Kadosh Baruch Hu, ve'altitosh Torah Timecha, en Imecha ela Knesset Israël. Voilà donc le thème. Ça veut dire, le Moussar vient du Père, et il n'y a d'autre Père que Dieu lui-même. Et la Torah vient de la mère, mais la mère, c'est Knesset Israël, c'est-à-dire la communauté d'Israël, l'assemblée d'Israël. Là, par là, c'est plus clair. Effectivement, je vous ouvre un petit épisode qui éclaire cette définition, c'est que Moïse n'est pas capable de cette force qui vient de Dieu en tant que père. Ce sont les Habots qui en sont capables. Donc, voilà un exemple. Au moment où les Hébreux dans le désert avaient demandé de la viande, vous vous rappelez de cela? Vous vous rappelez de cet épisode, hein? Les Hébreux n'avaient que la manne. Et à un certain moment, Itavu Tahava, dit le texte, ils ont désiré avoir des désirs et ils ont demandé de la viande. Je vous donnerai ici l'enseignement du Kedushat Lévi. Essentiellement, vous savez qui est le Kedushat Lévi? C'est le Rav Lévi de Verditchev, qui a donné l'enseignement que je vous cite ici, au nom du Baal Shem Tov, et c'est pris du Zohar, mais enfin à la manière des Chassidim. Et l'étonnement est le suivant. Dans le verset, il est dit ainsi, que tout le peuple qui n'avait que la manne, nous avons lu ça récemment dans la Torah, tout le peuple qui n'avait que la manne a demandé de la viande, et avec la motivation suivante, Zachar nu et adaga asher nochal bemisraim, ואת הבטחים ואת הקישויים. Dit voilà, nous nous souvenons de la, du poisson que nous mangions en Égypte, et des concombres, et des melons, et des, de la hâte, oui, et des pastèques, et alors donne-nous de la viande. Vous voyez que la motivation semble être décalée. Il demande de la viande en disant, on se souvient qu'on avait du poisson. Ça ne marche pas très bien. Voilà. Alors, le Châtelet-y explique de la manière suivante. En Égypte, finalement, les Hébreux, sauf la tribu de Lévi, qui est à part, enfin, les Hébreux ne mangeaient pas cachère. Ils n'avaient pas encore reçu les lois de la cacherie. Et voilà que Moïse est en train de leur révéler la Torah, et donc de leur donner les lois de la cacheroute. Or, la manne était une nourriture telle qu'elle prenait le goût du souvenir qu'on y mettait. Alors, la motivation des Hébreux était de dire, tu nous as donné les lois de la viande cachère, mais nous n'avons pas le moyen de réaliser la kavana de ces mitzvot de la viande cachère avec la manne, parce que la manne ne peut nous donner que le goût dont on se souvient. Or, on ne peut se souvenir que de ce qui est cachère, par exemple le poisson ou les légumes. On ne peut pas se souvenir de viande, puisqu'elle était tarouf en Égypte. Par conséquent, donne-nous de la viande, parce qu'on ne peut se souvenir que du poisson. Vous comprenez bon, on a sorti toute la génération du désert, du Gehinam d'un coup. C'est-à-dire leur kavana était authentique. Et il y a là un principe extrêmement important, c'est qu'ils ont demandé à Moïse quelque chose que Moïse n'est pas capable de leur donner, d'être capable de désirer un désir nouveau. Et cela, le Père donne le corps, et par conséquent, le Père est responsable, Dieu en tant que créateur, en tant que Père, peut donner à l'homme ces désirs qui sont indispensables pour que le projet de la création réussisse. Enfin, voilà ce que je veux dire exactement. Chaque présence humaine est, comme disent les kabbalistes, Keli et Or, un véhicule qui est le corps et la lumière que ce corps reçoit. Mais il ne vient dans le corps que la lumière qui peut y venir. Je veux dire que le bien que Dieu donne à la créature dépend de la capacité de désir de la créature. Pour que Dieu donne plus de ta'am, il faut que je sois capable de ta'ava. Par conséquent, c'était cachère. Ils sont arrivés au stade où il était nécessaire que la créature soit capable de plus de désir pour que Dieu donne plus de ta'am. Et c'est l'intention du créateur de donner la jouissance d'être à la créature, sinon il ne nous aurait pas créé. Par conséquent, l'intention du Créateur, c'est de donner le plus de bien possible. Mais pour cela, il faut que la créature soit capable de plus de désirs possibles. Alors, c'est ce que les Hébreux ont dit dans ce passage. Vous voyez comme on calomnie beaucoup nos ancêtres en lisant les...